Why then did the Sorting Hat place you in Gryffindor?
Because I asked it to.
Exactly, Harry, exactly. Which makes you different from Voldemort. It is not our abilities that show what we truly are. It is our choices.
It is not our abilities that show who we truly are. It is our choices. Ce ne sont pas nos aptitudes qui montrent qui nous sommes vraiment. Ce sont nos choix. Cette réplique de Richard Harris nous a donné à penser. Et voici notre interprétation subjective, bien sûr, de cette trouvaille du scénariste Steve Kloves, évidemment inspirée par le livre de J.K. Rowling. Dumbledore, alias Richard Harris, prononce cette phrase à la fin du film. Harry, alias Daniel Radcliffe, se demande si le choix magique a bien fait de l'envoyer à Gryffondor au lieu de Serpentard. Harry a compris qu'il avait beaucoup de ressemblances avec le mage noir Voldemort qu'il vient de défaire une nouvelle fois dans la Chambre des Secrets. Il doute donc de sa légitimité à être à Gryffondor. Dumbledore veut alors montrer à Harry que ressemblance ne veut pas dire identité. Ce n'est pas parce qu'il ressemble à Voldemort qu'il est comme lui. Plus exactement, ressemblance des aptitudes n'implique pas identité des choix. Nous ne nous définissons pas par ce que nous pouvons faire, mais par ce que nous faisons effectivement. Jean-Paul Sartre ne dit pas autre chose dans « L'existentialisme est un humanisme ». L'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. Harry se fait sauveur de Ginny, se fait tueur du basilic, se fait destructeur du souvenir de Voldemort. Il se fait digne d'appartenir à la maison Gryffondor, en témoigne l'épée de Godric Gryffondor qu'il a tirée du choix magique. Ses choix le définissent comme tel. Mais si l'on regarde plus attentivement la phrase de Dumbledore, on voit qu'à ses yeux, ce n'est pas tant que nos choix nous définissent, c'est qu'ils nous reflètent, ils nous montrent, ils donnent à voir qui nous sommes. Chaque choix renferme en lui-même notre personne tout entière. Nos aptitudes, elles, ne nous montrent pas. Tom Jedusor avait des capacités magiques incroyables, mais elles n'ont pas montré qui il était vraiment, le mage noir Voldemort. Ce sont ses choix qui ont donné à voir sa sombre nature. Nos choix sont à l'image de qui nous sommes. Les évolutions sont concomitantes. On devient ce qu'on choisit en même temps qu'on choisit ce qu'on devient. Les décisions du choix-pot, qui se fondent sur les aptitudes, ne créent que des Gryffondor en puissance. Pour devenir un Gryffondor en acte, Harry a dû prouver sa vaillance, son courage et sa loyauté. Si bien qu'en définitive, la phrase de Dumbledore ne nous semble plus si sartrienne. Harry n'a pas décidé de façon absolue qu'il était telle ou telle personne. Il a fait ses choix en fonction de qui il est. Sa nature a préexisté à ses actes, même si elle a évolué avec ceux-ci. Dumbledore n'est donc pas non plus un déterministe, pour qui chaque choix découlerait nécessairement de la nature de la personne. La phrase du directeur de l'école Poudlard nous invite en réalité à réévaluer notre vision de l'existence, à la considérer ni comme liberté absolue, ni comme détermination absolue, mais comme un espace de contraintes et de possibilités où chacun peut déployer sa subjectivité.
Chers auditeurs, bonsoir, excusez-nous pour ce léger problème technique, une émission qui commence un petit peu en retard. Nous déborderons peut-être un peu sur la fin, j'espère que vous nous en excuserez. Vous êtes les bienvenus sur l'île déserte, un programme hébergé par Radio Campus Paris et localisé sur le 93.9 FM. Le générique de ce soir, Bachimakumba de Gilberto Gil, qui s'agite actuellement derrière ma voix, est moins un générique à proprement parler qu'une passerelle entre l'exotisme de l'émission précédente et le merveilleux qui nous occupera ce soir. Alors vous vous en souvenez peut-être, il y a 15 jours, nous avons conclu notre émission consacrée au thème de l'île sur cette analogie troublante. L'île et la pop seraient toutes deux des arrière-mondes, des utopies, appelant à l'évasion et à la fuite face au quotidien. Eh bien, le thème que je vous propose d'explorer ce soir, la magie, est à bien des égards voisin de celui de l'île, puisqu'il flirte lui aussi avec les notions d'irréel et d'imaginaire. Toutefois, là où l'île nous permettait d'examiner le versant, pour ainsi dire, géographique et territorial de l'irréel, la magie nous permettra d'en déchiffrer les ressorts logiques, les fondements causaux. Il sera donc moins question ce soir de topos que de logos. Adieu les cartes de l'île au trésor, vive les recettes des potions et autres bouillons magiques. Car la première question que nous pose la magie est bien celle de notre rapport troublé au réel et à ses zones d'ombre. Comment expliquer l'inexplicable? Comment rationaliser l'irrationnel? Force est de constater que le merveilleux et le sacré sont d'abord des mouvements de fuite, de renoncement par l'artifice face aux explications logiques qui régissent notre monde. Mais si le magicien comble les vides de la logique, s'il rebouche les béances de la raison, son mastic est aussi magique en cela qu'il apporte davantage qu'une simple réparation. Le magicien embellit, amplifie, dédouble, enchante le réel autant qu'il masque ses incohérences. S'il est souvent garagiste, le magicien est donc aussi un agent du beau.
Aujourd'hui, 37-2 rencontre Damien, magicien et étudiant en droit à ses heures perdues. Il le parle avec humour, de mentalisme, de lévitation, de rencontres et de partages. Son but, comme il nous l'explique, c'est de surprendre, d'enchanter petits et grands. Vous ne l'entendrez pas parler de ses nuits blanches passées à réviser ses partiels et de ses entraînements au triathlon. Par contre, vous entendrez l'exposé d'une passion peu ordinaire.
Oui, alors donc ma première fois en magie, donc c'était dans un mariage. La personne qui m'a formé m'a accompagné à la première table, il m'a présenté. Parce que maintenant je le fais évidemment tout seul. Donc première chose qu'on fait quand on arrive à une table, on se présente. Et il m'a dit, il va vous faire un tour de magie, c'est sa première fois, donc soyez indulgents. Donc c'était vraiment un public très familial, très sympa. Et j'ai fait mon premier tour hyper stressé, limite je tremblais des mains, etc. Mais j'ai pas raté mon tour et ils en ont redemandé derrière, sauf que j'étais bien emmerdé parce que j'en connaissais qu'un. Donc voilà. Du coup après j'aurais dit c'est mon collègue qui prendra le relais. Mais non, c'était une expérience vraiment très intense. C'est à l'adrénaline qui monte, t'as le cœur qui bat à fond et tu commences à avoir les mains moites et tout. Enfin voilà. Donc en général tu gardes toujours un ou deux tours au cas où que tu n'as pas prévu forcément de faire, mais que tu le gardes, parce qu'il faut toujours parer à l'imprévu. Des fois, ce n'est pas forcément de ta faute que si ça rate. Hein, tu peux toujours avoir une petite part d'incertitude si jamais, quand tu fais participer les gens, il y a une raison pour une autre qui fait que tu ne peux pas faire ton tour correctement. Ouais. Tu es obligé de pouvoir trouver un subterfuge pour que ça passe, quoi. Pas perdre la face. Les premières fois, non, c'est pas passé, non, évidemment, mais oui, après, c'est passé. Non, le truc, c'est qu'il ne faut surtout pas que les personnes comprennent le truc du tour, en fait, c'est surtout ça.
La façon dont je vais exécuter ce tour n'existe nulle part au monde.
Il est temps d'appeler notre grande prêtresse, Nadine.
Bonsoir. Soleil ?
Sextile ! Pluton, orbe, 5°02.
Vénus.
Trigone, Pluton, orbe, 2°53.
Chers amis, ce soir, un rituel va s'accomplir devant vos oreilles. Nous allons tout d'abord procéder à la libération des ondes par l'acupuncture de la membrane. Nous allons maintenant procéder à la lecture du grimoire.
Ah, la fabbrica di Belzebù e Satanassu, setti pugnali m'ammulati, a nullu cori nonnu lanciati, ca nuddu riposo a putiri pigghiari. Diavolu di lì lu furnu, porti millu un turno.
Songasme. L'émission à thème musical de Radio Campus Paris. Bonjour les loulous et bienvenue dans le sixième numéro de Songasme sur Radio Campus Paris. Aujourd'hui, Songasme va s'engouffrer dans les flammes de l'enfer et dans les méandres du mal. J'irai pour vous me faisant fi du danger, me frotter à l'ange déchu, le plus détesté, le plus vénéré de tous, Mister Satan, aussi appelé Lucifer.
Vous êtes quoi ?
Oh, on me donne tant de noms différents.
Satan.
Non. Appelle-moi papa.
Les origines du diable sont multiples et complexes. Dans les grandes religions monothéistes, l'histoire du diable est celle d'un ange insoumis qui aurait défié Dieu en voulant devenir son égal. Précipité aux enfers, il deviendra chef de tout démon et autre ange déchu afin de revenir sur terre et de faire renier le mal au sein des hommes. La religion catholique, depuis des siècles et des siècles, catégorisera de diabolique et de satanique tout mouvement contraire à leur dogme, toute rébellion et remise en cause de son institution. La musique a quelque chose de religieux et de divin, et l'homme a toujours eu tendance à mythifier et à sacraliser sa musique, que ce soit les musiciens, les interprètes ou les compositeurs. La religion et la scène musicale possèdent tous les deux des dieux qui côtoient le ciel ou les enfers, des apôtres, des fidèles et des opposants. Que l'on prenne Elvis Presley, Ozzy Osbourne ou Johnny Hallyday, on leur trouvera toujours des vrais fanatiques qui se réunissent entre eux et leur vouent un culte puissant. Comment le diable est-il donc utilisé dans la musique ? Y a-t-il réellement une musique du diable ? Qui sont les vrais satanistes ? Cette musique est-elle forcément agressive, troublante et dangereuse pour les oreilles de l'auditeur ? Songasme essaiera de vous apporter des réponses en deux parties sur ce sujet brûlant. Durant le Moyen-Âge, l'imagerie du diable était très présente par la littérature, la peinture, la musique et les récits oraux. C'était une peur très ancrée dans la population. On représentait Satan avec des cornes de bouc et des ailes. Un être hybride entre le chien, le taureau et l'homme. Et c'était évidemment lui qui était la cause de tous les comportements dangereux et immoraux de la population. Tout ce qui était en dehors du cadre imposé par l'institution religieuse était donc hérétique et diabolique. L'Église catholique, dans une volonté d'expansion, jouait beaucoup avec l'imagerie du diable, le but étant de faire peur aux non-croyants et de les rallier à la grande cause. La musique était l'outil idéal pour mieux faire passer les idées religieuses ou politiques. Elle l'est toujours, d'ailleurs. On purifiait donc la population païenne avec une musique pure et harmonique, une musique censée amener vers le haut, une musique d'élévation vers l'éternel. C'est-à-dire qu'il fallait qu'elle soit composée d'intervalles gracieux et doux à l'oreille, l'intervalle étant l'écart de hauteur entre deux notes. Et c'est là qu'arrive l'intervalle païen par excellence, l'intervalle interdit, le diabolus in musica, littéralement le diable dans la musique. Ce nom est dû au fait que cet intervalle fait exactement 3 tons, ce qui donne triton, et cet intervalle a une sonorité un petit peu étrange qui induit une impression de suspension et de déstabilisation. Jugé alors violent et désorientant, il fut tout simplement interdit par l'Église. Voici un exemple. Avec 2 intervalles que vous allez entendre, que l'on va qualifier de purs, et un 3e qui sera donc triton. Aujourd'hui, pour nos oreilles, cet accord n'a plus rien de déstabilisant. C'est au contraire plein d'énergie. C'est un intervalle qui fait appel aux tripes, à quelque chose de presque sexuel, ou en tout cas très charnel. Et c'est sans doute pour ces raisons qu'il fut craint et interdit. C'est parce qu'en fait, il avait une sonorité qui nous ramenait sur terre plutôt que nous élever. Il nous ramenait sur terre pour danser. C'est quelque chose qui nous ramène au corps, dans notre corps. Donc il n'y a plus d'élévation possible. Alors aujourd'hui, le triton est très très utilisé, surtout dans la musique rock, dans le métal, mais aussi dans beaucoup de musique de films. Et une des utilisations les plus emblématiques du triton peuvent se retrouver dans les parties de guitare de Tony Iommi, guitariste légendaire du groupe Black Sabbath.